Chers amis, ouvrons nos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, dont nous lisons les 18 premiers versets. Éphésiens 5, verset 1 à 18. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, l'accaparement, ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on entende ni propos obscènes, propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, ne vous dupe par de vains discours, par des paroles vides. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne soyez point complices. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est dénoncé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin que de vous conduire avec circonspection, consciencieusement, non comme des insensés, mais comme des sages, mettant à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, stupides, dépourvus d'intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est du dérèglement. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Un riche propriétaire américain avait un fils unique qu'il aimait beaucoup. Il avait fait faire de ce fils un portrait, sachant qu'il était atteint d'une maladie incurable et qu'il n'allait pas tarder à mourir. Et effectivement, peu après la réalisation de ce portrait, ce fils unique est décédé. Ce fut un grand chagrin pour le père, mais pas uniquement pour le père, aussi pour un vieux serviteur qui l'aimait tout particulièrement. Et le temps vint, le moment arriva où le propriétaire mourut à son tour, et comme il n'avait pas d'héritier, ce sont ces nombreux serviteurs qui furent couchés sur son testament avec le privilège de se partager son immense héritage. Au jour et à l'heure dit, ils se réunirent donc en présence d'un huissier qui ouvrit le testament pour en commencer la lecture. Et bien entendu, vous pouvez imaginer l'état d'ébullition avancée des ménages de tout le système de pensée de bon nombre de ses serviteurs qui avaient eu le temps, jusqu'à ce que la convocation précise le jour et le moment de la réunion, de se bâtir des châteaux en Espagne, vu les richesses de leur maître défunt. Ils étaient donc là, dans un suspense suspendu aux lèvres de cet huissier, qui, commençant sa lecture, leur indiqua que il y avait un premier objet qui était proposé à l'ensemble des serviteurs. Et ce portrait, cet objet était le portrait du Fils unique. Quand les serviteurs entendirent ce début de testament, ils eurent une réaction de haussement d'épaule et de mépris. Qu'est-ce qu'un portrait face aux richesses extraordinaires d'un tel propriétaire? Et donc, ils ne manifestèrent pas le moindre intérêt pour le portrait de ce Fils unique, sauf ce vieux serviteur, qui sans doute depuis le fond de la salle où il était humblement assis, se leva pour fendre cette foule dans l'attente, et qui, sous les regards quelque peu moqueurs et les haussements d'épaule des autres serviteurs, s'avança jusqu'à l'huissier pour dire: écoutez, je veux vraiment bien recevoir ce cadeau de mon maître défunt. Et donc le cadeau, ce portrait, lui fut immédiatement remis, et tout le monde put voir sur les joues de ce serviteur les larmes couler, alors qu'il serrait ce portrait sur son cœur comme s'il avait été en présence de ce Fils unique qu'il avait tant aimé. Et donc il est allé se rasseoir humblement sur sa chaise, là dans le fond, et l'huissier, lorsque le silence complet fut revenu, lut alors la suite du testament. Elle ne comptait que quelques mots. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Être rempli du Saint-Esprit, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est être centré sur Christ, car celui qui reçoit Christ, celui qui donne la place essentielle, centrale à Jésus-Christ, celui qui accepte cette bienveillante autorité de la Seigneurie de Christ, celui-là, lui, est assuré de tout recevoir. Nous avons évoqué cet après-midi Hudson Taylor. Et dans une vieille biographie très épaisse en deux volumes que je garde précieusement parce que elle ne sera sans doute plus jamais publiée, Hudson Taylor dit ceci: que Dieu vous garde, et non seulement vous garde, mais vous remplisse de plus en plus, et fasse déborder de votre âme des eaux vives. La seule chose dont il faut nous souvenir, c'est qu'il a plu au Père que toute plénitude habitât en lui. Hors de lui, nous n'avons rien, Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons porter aucun fruit pour Dieu. Il ne nous donnera pas, à vous ou à moi, quelque peu de ses richesses pour que nous en usions et en vivions hors de lui. Mais en lui, tout est à nous. Avec lui, il y a pour nous une fête continuelle. Connaître Christ comme l'époux est la plus grande bénédiction. Non pas le fiancé qui fait des visites occasionnelles, mais l'époux. Je suis toujours avec vous. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tels sont pour nous ces messages d'amour. J'ai sélectionné un certain nombre de textes qui sont autant d'hymnes à la plénitude entière et pleinement suffisante de Jésus-Christ. Le premier de ces textes est un très très vieux texte. Nous avons évoqué Ambroise de Milan, que Dieu, c'est vrai, a utilisé pour le travail de son esprit dans le cœur d'Augustin d'Hippone. Et c'est Ambroise de Milan, qui a vécu de l'an 340 à l'an 397, a personnellement confessé sa foi personnelle et son centrage sur Jésus-Christ en ces termes. En Jésus, j'ai trouvé un ami qui, lorsque je vivais loin de lui, s'est approché de moi, m'a parlé, a gagné mon cœur. En lui, j'ai trouvé un sauveur pour le temps et l'éternité. Après m'avoir montré mon cœur corrompu, il m'a révélé son grand amour et a effacé mes péchés au prix de son sang précieux. En Jésus, j'ai trouvé un guide fidèle qui, dans les moments de faiblesse, a empêché mon pied de glisser et m'a préservé des chutes. En Jésus, j'ai trouvé aussi un défenseur, car lorsque Satan m'a attaqué, il s'est toujours placé devant moi et a repoussé l'ennemi qui cherchait à me terrasser. Oui, en Jésus, j'ai tout trouvé, ce que le monde n'a jamais pu me donner, et après quoi mon cœur a longtemps soupiré, je l'ai trouvé en lui. C'est pourquoi je suis pressé de dire à tous ceux qui soupirent après la paix, la joie, le repos, venez à Jésus. En lui sont cachés des trésors dont il fait part à tous ceux qui croient en lui et qui désirent le suivre et le servir. Il est encore le même aujourd'hui et offre librement la vie éternelle, la paix et le bonheur pour toujours. Déjà dans l'Ancien Testament, dans ce psaume 23, best-seller des psaumes sur la terre entière, nous avons toute l'émanation des richesses insondables que nous trouvons dans la personne du divin berger. Quelqu'un écrit ceci comme commentaire à partir de chaque verset de ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai pas de rafraîchissement. Il me dirige près des eaux paisibles. Je ne manquerai pas de protection, il restaure mon âme. Je ne manquerai pas de direction, il me conduit. Je ne manquerai pas de paix, je ne crains aucun mal. Je ne manquerai pas de compagnie, tu es avec moi. Je ne manquerai pas de réconfort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne manquerai pas de nourriture, tu dresses devant moi une table. Je ne manquerai pas de joie, tu oins d'huile ma tête. Je ne manquerai de rien, ma coupe déborde. Je ne manquerai pas de bonheur dès ici-bas, car le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et je ne manquerai pas de gloire dans l'avenir, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Un croyant authentique, dont je n'ai pas la signature, qui avait été l'objet des soins du Sauveur dans l'adversité, a écrit les paroles suivantes. « Suis-je blessé ? Il est le baume. Suis-je malade ? Il est le remède. Suis-je pauvre ? Il est la richesse. Suis-je affamé ? Il est le pain. Suis-je assoiffé ? Il est l'eau. Suis-je en dette ? Il est ma caution. Suis-je dans les ténèbres ? Il est mon soleil et mon bouclier. Dois-je affronter une tempête et de sombres nuages ? Il est une ancre sûre et solide. Suis-je accusé ? Il plaide pour moi, parce qu'il est mon avocat. Oui, dans tous mes besoins, le Christ est mon tout. » Je pense à une des paraboles les plus connues et les plus bouleversantes de Jésus, celle de l'enfant perdu. Cet enfant perdu qui, après avoir joui de toutes les richesses de son père, l'a fait virtuellement mourir puisqu'il lui a réclamé son héritage de son vivant, ce qui était la faute la plus grave qu'on puisse faire à l'endroit de son père, parce que on le méprisait en tant qu'être vivant, disait en fait pour moi tu es mort et je suis en train d'ouvrir et de prendre connaissance de ton testament et d'hériter de ma part. Et puis vous savez comment, peu à peu, après avoir dilapidé la part d'héritage qui lui revenait, il est tombé de désuétude en désuétude jusqu'à se retrouver aux côtés des pourceaux dont il ne pouvait même pas partager la nourriture. Et c'est alors qu'il se souvient du pain qui était en abondance dans la maison de son cher papa. Il rentre donc en lui-même, il modifie totalement l'orientation de ses pensées et il finit par dire « Mais je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais vraiment plaider coupable sans la moindre excuse auprès de mon père, tout à fait d'accord, tout à fait prêt à supporter toutes les conséquences de mes mauvais choix. » Et il se lève donc et on peut très bien imaginer ce cher papa dont la conduite de ce fils cadet avait vieilli l'existence et qui, jour après jour, regardait là, au lointain horizon, pour essayer de distinguer de ses yeux de plus en plus fatigués un tout petit point qui grandirait peu à peu et qui finalement lui indiquerait distinctement que c'était son cher fils qui était de retour. Et un jour, au bonheur, oh, son cœur devait battre très fort, au bonheur, lorsqu'il a pu enfin distinguer dans un point de plus en plus compréhensible, identifiable, et qui peut-être même zigzaguait sur le chemin, enfin, il a reconnu son fils. Et là aussi, alors, il a violé toutes les règles de la bienséance que surtout un honorable vieillard comme lui se devait de respecter. Il n'a pas pensé à ce que la population du village allait penser de lui. Il a relevé sa robe et il s'est mis à courir de tout son cœur au point de risquer la crise cardiaque et l'effondrement, n'est-ce pas ? On voyait ses jambes qui se baladaient, mais tant pis si on voit mes jambes, mon fils. Et vous savez comment ça s'est passé. J'ai toujours béni Dieu de ce que l'itinéraire du fils perdu n'est pas d'abord croisé l'itinéraire emprunté par le frère aîné dans cette parabole. Quel bonheur de savoir que il n'y avait pas là un frère aîné qui se tenait derrière un buisson avec une machette ou une kalachnikov pour qu'une belle flaque de sang inonde et abreuve le sol à un endroit de cet itinéraire. Et vous savez comment ce frère aîné, en découvrant ce qui était en train de se passer, la fête qui battait son plein, lui, rentrant et rinté des champs, a mis son père à mal en étant, mais d'un mépris absolument incroyable, et en ayant en face de lui un papa qui le supplie de rentrer. Il se fait traiter de tous les noms et il supplie ce fils d'entrer qui est en train de lui reprocher de ne jamais avoir su organiser une fête en son honneur. Et le père, là, est à deux doigts de faire la crise cardiaque. Mais comment? Mais mon fils, mais tout ce que j'ai est à toi! Tu peux faire la fête quand tu veux, mais tu ne te rends pas compte que tu t'es privé de ma grâce pendant tant d'années. Mes amis, il est des églises qui, à par leur orientation tellement légaliste, tellement centrée sur la nécessité de s'examiner du haut en bas, consciencieusement, de faire du nombrilisme, de prendre sa température spirituelle du matin au soir et encore la nuit, qu'ils en sont malades et qu'ils oublient que le Seigneur a à leur disposition un festin tous les jours. Oh, j'ai retenu ce témoignage donné par un homme lors d'une réunion, dans une série de réunions que tenait un évangéliste. Cet homme, se levant, a dit ceci. Ça se passe aux États-Unis. Je suis arrivé au terminus ferroviaire Pennsylvania, comme un vagabond. Et pendant un an, j'ai vécu de mendicité. Un jour, j'ai touché un homme à l'épaule et je lui ai dit, « Dites-moi, monsieur, vous auriez pas 10 sous ?» Mais aussitôt que j'ai vu son visage, j'ai été frappé de stupeur en constatant que c'était mon propre père. J'ai dit, « Papa, papa, me reconnais-tu ?» Il m'a entouré de ses bras et il m'a dit, « Oh, mon fils, je t'ai enfin trouvé, je t'ai retrouvé. Tu veux 10 sous? Mais tout ce que j'ai est à toi. » Imaginez ça. J'étais un vagabond. J'ai mendié 10 sous à mon père alors qu'il me cherchait depuis 18 ans pour me donner tout ce qu'il avait. Ah, mes amis, combien nous nous privons de la grâce de Dieu parce que nous sommes mal centrés, parce que notre vie chrétienne consiste trop d'abord en un tissu de tu dois et tu ne dois pas, alors qu'il nous faut toujours d'abord aller à la source. C'est toujours vers lui qu'il faut aller, parce que Dieu n'est pas un épicier. C'est vers le Christ vivant qu'il nous faut aller pour lui dire nos vides, nos échecs, nos carences, nos désordres intérieurs, nos amertumes, tout ce qui nous empoisonne. Et puis aussi, nous le verrons, notre soif. Savez-vous que nous sommes, par la grâce de Dieu, propriétaires en indivision de tout ce qui appartient à Jésus-Christ? L'indivision. On fait du droit, n'est-ce pas, aujourd'hui? Et vous savez que l'indivision pose beaucoup de problèmes, elle aussi. Lorsque j'étais responsable d'église pendant 10 ans, à Paimpol, dans ce qui était à l'époque les Côtes du Nord et qui ont élégamment changé de nom, Côtes d'Armor aujourd'hui, nous avons un jour appris que un croyant que nous connaissions bien, qui était riche d'ailleurs, venait de décéder et qu'il nous avait couché sur son testament aux côtés d'une autre église, mais aussi aux côtés de sa veuve, et qu'en fait, tout cela c'était pour la même maison. Et sa veuve n'avait pas d'autre lieu pour vivre et se loger que cette maison-là. C'était un héritage en indivision. C'est-à-dire que c'était nous à nous arranger, entre tous, avec cette veuve qui ne connaissait pas Jésus-Christ, et avec cette autre église à 45 kilomètres de la nôtre, pour que les choses se passent le mieux possible et que chacun puisse, en quelque sorte, si la maison n'était pas vendue, que chacun puisse cohabiter en paix. Mes amis, nous n'avons pas tardé à écrire au tribunal pour dire que, tout simplement, il n'était pas question pour nous d'accepter ce genre d'héritage. Nous ne voulions pas déposséder une veuve de surcroît qui ne connaissait pas Jésus-Christ. S'il y avait un mauvais témoignage à donner, c'était bien celui-là, n'est-ce pas? Et donc, nous avons laissé la chose. Je viens d'apprendre ces derniers jours que la loi est en cours de modification sur l'indivision en France, précisément parce que jusqu'à présent, ça a posé d'énormes problèmes, alors on veut tenter de simplifier un peu tout cela. Mais ce qui est beau, c'est que avec Jésus-Christ, l'indivision ne pose pas de problème. Nous avons une démonstration d'indivision extraordinaire dans l'Ancien Testament, dans le petit livre de Ruth, que j'évoque dans mon livre « De l'amertume à la grâce », qui est centré sur la belle-mère Naomi et sur son mari. Lorsque, après avoir glané sous le chaud soleil des pentes, bien orienté pour le soleil, croyez-moi, des champs autour de Bethléem, est en train donc de glaner encore, pendant qu'à quelques pas d'elle, la faucheuse, batteuse, lieuse, moissonneuse fonctionne à plein rendement. Je veux parler de toute l'équipe qui travaille aux ordres de Boz pour la moisson. C'est dur de glaner lorsque vous voyez à quelques pas de vous une équipe qui engrange des tonnes pendant que vous essayez de remplir votre panier. Pourtant, Ruth l'a accepté. Elle l'a si bien accepté que finalement, ça a fait tilt quelque part entre elle et Boz, l'homme riche en tout, le type de Jésus-Christ. Et dans son amour pour Dieu et le respect, la considération, l'admiration qu'il avait pour cette jeune veuve courageuse, il a commencé à la faire asseoir en quelque sorte à sa table dans les champs pour bénéficier du même repas que ses serviteurs. Il s'est arrangé pour que les serviteurs laissent ici et là des épis en abondance, de manière à ce que sa récolte à elle soit fameuse. Et elle est effectivement rentrée vers sa belle-mère, le cœur rempli d'une joie extraordinaire, parce qu'elle avait travaillé dans le champ de la grâce. Et elle avait donc une merveilleuse moisson à proposer à sa chère belle-maman. Et comment tout cela s'est-il terminé? Eh bien, tout cela s'est terminé par un beau mariage qui est le triomphe de la grâce qui va au-delà de la loi. Et du jour au lendemain, Madame Ruth Boz est devenue propriétaire de tous les champs et de toutes les propriétés, de tout ce qui appartenait à son cher mari. Et je suis sûr qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage entre eux. Tout était en indivision. Ce qui était à lui, désormais, était à elle, l'étrangère qui entrait par la pure grâce de Dieu dans l'assemblée de l'Éternel à Bethléem. mes amis, déjà dans l'ancienne alliance, quelques 11 siècles avant Jésus-Christ, nous avons ce message extraordinaire, prophétique, messianique, que nous trouvons la plénitude de notre satisfaction dans le Christ qui suffit pleinement. Et ça, c'est une réalité qui devient de plus en plus précieuse au fil de notre progression dans notre relation avec le Seigneur. Plus nous avançons, plus la générosité inouïe de Dieu à l'endroit de nos personnes qui non seulement ne méritent rien, mais ont tout fait pour démériter et ont démérité. Cette grâce de Dieu, cette générosité inouïe de Dieu qui a explosé dans un zénith incroyable dans la croix de Golgotha pour continuer ensuite à se manifester de jour en jour, d'heure en heure, d'instant en instant dans notre marche quotidienne avec celui qui est notre Sauveur et Seigneur. Plénitude du Saint-Esprit, oui. Plénitude en Christ, dans notre intimité avec lui. Que notre regard soit de plus centré sur lui. Quelqu'un dit très justement, pour un regard sur vous-même, jetez-en 10 sur le Seigneur. Et cela va changer votre vie. Dans mon livre consacré au découragement, toute la première partie de ce livre est centré sur la nécessité de complètement changer l'orientation de notre regard. D'être comme ce jeune mousse qui était au bas de l'échelle sur un bateau dans les temps anciens et qui avait un bon capitaine. Et ce bon capitaine, le jour où il a voulu l'envoyer là au sommet du grand mât, pour faire certains travaux, lui a dit, « Mon gars, souviens-toi d'une chose quand tu vas monter, c'est que jamais, au grand jamais, il ne te faut regarder en bas. Si tu regardes en bas, tu es perdu. Souviens-toi de cela, mon gars. » Et le jeune mousse a entamé son escalade comme un singe, n'est-ce pas? Et il montait, il s'élevait, et pendant qu'il s'élevait, le bon capitaine, discrètement, le surveillait du coin de l'œil parce qu'il avait de l'expérience et il connaissait la tentation de regarder en bas. Et effectivement, ce qui devait arriver, arriva. Il arriva un moment où, parvenu très haut, là-haut, très haut, la tête s'est tournée. Et très rapidement, le capitaine a vu que ce mousse était en train de vaciller. Il s'est dit, oui, il est en danger. Et il a hurlé comme il n'avait peut-être jamais hurlé jusqu'alors. Regarde en haut! Et c'est ainsi que ce jeune mousse a été sauvé d'une mort absolument inévitable en s'écrasant sur le pont. Combien de fois dans nos vies le Seigneur nous dit « Regarde en haut !» Parce que nous nous laissons engluer dans les marécages de nos situations difficiles, de toutes les contingences de notre monde difficile, de notre entourage parfois difficile, de notre caisse qui est en train de se vider, de notre santé qui va un peu plus mal, etc., n'est-ce pas? Et continuellement, le Seigneur veut nous dire par le Saint-Esprit, « Mais regarde en haut, c'est en haut que se trouve ta plénitude !» Dans le Christ. Voilà aussi une des merveilleuses fonctions du Saint-Esprit. Et là, nous revenons à Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Le terme débauche peut être un peu problématique ici, pour la bonne raison que vous avez au chapitre, dans le chapitre 5 et au verset 3, le terme débauche. Vous l'avez de nouveau un peu plus bas, verset 5, sachez-le bien, aucun débauché. Et d'ailleurs, c'est une des particularités de l'apôtre Paul, dans ses écrits, conduit magistralement par le Saint-Esprit, que celle de généralement commencer toutes ces énumérations des diverses formes de péché vécues par l'homme et par le croyant, de commencer avec ce terme, la débauche. Comme s'il voulait montrer que c'est certainement un des gros problèmes fondamentaux de la vie que la débauche. La porneia. On a compris d'où vient le mot pornographie. Et le mot porneia est ce qu'on appelle un terme générique, c'est-à-dire qu'il englobe toutes les facettes possibles et imaginables des déviations de la sexualité, que ce soit en dehors du mariage, que ce soit dans le mariage. Alors, mes amis, il y en a une litanie de ces déviations. Alors, on comprend pourquoi ça se situe si souvent, d'ailleurs, dans les œuvres de la chair, de l'hippopotame, moi, selon le mot de la maréchale Booth, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il commence aussi par la porneia. Mais ici, dans Éphésiens 5, verset 18, ce n'est pas ce terme qui est utilisé. C'est un terme qui commence par ce qu'on appelle un a privatif, un alpha privatif, quelque chose donc qui fonctionne mal. C'est le fait d'être sans capacité de se sauver soi-même. C'est-à-dire d'être maître de ses sentiments, de ses pulsions, dans la tentation, etc. Ce que j'ai généralement appelé le dérèglement. Quand vous n'avez plus la maîtrise en tant que disciple de Jésus-Christ de votre conduite. Ne vous enivrez pas de vin, c'est du dérèglement. C'est intéressant. J'ai ici sous les yeux un extrait d'un commentaire de Martin Lloyd-Jones, un cher Gallois qui est auprès du Seigneur, qui a été un prédicateur, enseignant, commentateur des Écritures absolument remarquable et qui nous a laissé une richesse insondable dans une étude systématique, notamment de l'Épître aux Romains. Il a été, avant d'être pasteur et docteur en quelque sorte, il a été médecin. Ce qui donne beaucoup de valeur à certaines de ses déclarations qui crée un lien entre la médecine et les textes bibliques. Et lorsque il évoque Éphésiens 5, 18, il écrit ceci. Du point de vue pharmacologique, le vin et l'alcool en général ne sont pas des stimulants, comme on le dit souvent, mais des déprimants. Ouvrez n'importe quel ouvrage de pharmacologie et vous constaterez que les alcools sont toujours classés parmi les déprimants. Ils ne sont pas considérés comme des stimulants. Ils dépriment d'abord en touchant principalement les centres les plus importants du cerveau. Ils affectent les fonctions qui commandent la maîtrise de soi. Vous voyez le dérèglement, hein ? L'absence de maîtrise. Ils affectent les fonctions qui commandent la maîtrise de soi, la sagesse, la compréhension, le jugement, l'équilibre, la faculté d'évaluer les choses. En d'autres termes, l'alcool atteint l'homme dans tout ce qui détermine son comportement le meilleur et le plus noble. Le même auteur ajoute, s'il était possible d'inclure le Saint-Esprit dans un manuel de pharmacologie, je le classerai parmi les stimulants. Ce serait là sa place. Il stimule réellement, il stimule chacune de nos facultés, la pensée et l'intelligence, le cœur et la volonté. D'ailleurs, c'est tellement vrai, parce que confirmé par des observations très intéressantes. Dans le passé, je l'ai lu à diverses reprises, on pouvait reconnaître déjà dans les écoles primaires et dans le secondaire que quelqu'un lisait la Bible parce qu'il avait une relation avec Dieu, qu'il faisait partie d'une famille dans laquelle on cultivait une relation avec Dieu, parce qu'il était élève meilleur que les autres. Tout simplement parce qu'il avait un esprit beaucoup plus ouvert, et il est vrai que plus vous ouvrez la Bible, plus vous la lisez, la méditez, la creusez d'un bout à l'autre, plus vous devenez curieux dans une quantité de domaines que vous n'étudieriez peut-être jamais si le Seigneur n'était venu habiter dans votre cœur. Je ne me serais peut-être jamais intéressé à l'archéologie, à l'histoire et à tant d'autres domaines qui me passionnent si ce n'était pas le Christ qui avait ouvert mon esprit et qui m'avait donné envie d'étudier dans tant et tant de domaines au travers de tout ce que je découvre et découvre encore dans les Écritures. Ça, c'est encore un des aspects absolument passionnants de notre contact permanent avec la parole de Dieu. Donc, un autre auteur, toujours sur ce texte d'Éphésiens 5, 18, écrira ceci: dans la plénitude de l'esprit, comme dans l'ivresse des puissantes influences, de puissantes influences agissent en nous. L'alcool dans le sang, le Saint-Esprit dans le cœur. Mais alors qu'un excès d'alcool conduit à une licence sans raison et sans frein qui transforme l'ivrogne en bête, la plénitude de l'esprit mène à une conduite morale, sobre et rationnelle, qui transforme le chrétien à l'image du Christ. Ainsi, les boissons spiritueuses et les sources spirituelles, celles qui se trouvent en Dieu, donnent des résultats totalement et diamétralement opposés. Les unes nous ramènent à l'animal, les autres, la ressemblance du Christ. Contemplez le Christ des Écritures, apprenez à trouver votre satisfaction en lui, c'est le chemin pour notre transformation à sa ressemblance. Dieu en utilise bien d'autres manières d'agir pour nous transformer, mais c'est là en tout cas le chemin fondamental. Ici intervient une remarque importante qui découle de cet impératif d'Éphésiens 5, 18, commençant par l'ivresse de l'alcool. Cette remarque importante, la voici. La plénitude du Saint-Esprit ne se traduit donc jamais en excentricité, en bizarrerie, en perte de contrôle de ses paroles, en perte de contrôle de ses gestes, en débordement, en incohérence, en rire difficile à arrêter. Parce qu'une des particularités, nous le verrons demain matin, de ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit, c'est de contribuer au développement de son fruit, le fruit de l'Esprit, et la colonne vertébrale qui, en fait, traverse l'ensemble de Galates 5, 22, dans cette énumération de 9 termes, le premier étant un générique, l'amour, le dernier étant la tempérance, mieux dit, plus général, la maîtrise de soi, le grec dira la force intérieure qui nous permet de contrôler le déroulement de notre vie et de notre caractère. On ne peut pas prétendre être rempli du Saint-Esprit et se livrer à des excentricités, à des cris, à des bizarreries, à être incapable de surcroît de s'arrêter, au point que certaines personnes vivant de telles expériences sont dans l'incapacité de s'arrêter immédiatement pour se porter au secours de quelqu'un qui est en train de mourir à côté d'eux. Il faut que ceci soit extrêmement clair parce que c'est un point de repère essentiel dans le chaos, dans la confusion qui prévaut actuellement sur les signes d'une vraie spiritualité et d'une plénitude intérieure par le Saint-Esprit. Écoutez cette expérience racontée par Pierre van Worden, qui est auprès du Seigneur depuis déjà un certain temps, dans son autobiographie, Pierre le suivit. Il écrit ceci. J'assistais à une réunion de prière. Quelques femmes noires, des plus corpulentes, je pense que ça se passait certainement dans un pays d'outre-mer, au visage luisant, avaient pris place au premier rang. Elles balançaient la tête pendant la prière. Je ne sais pour quelle raison mon regard se fixa sur le sol. Une petite souris rondelette venait d'apparaître devant le podium. Elle fit un bond d'un mètre et regarda autour d'elle indécise. Elle semblait examiner le terrain. Au même instant, l'une des femmes se mit à crier de toutes ses forces. Elle avait aperçu la petite bête inoffensive qui se retira aussitôt. Les voisines interprétèrent mal les cris de leur compagne. Elles pensèrent que le Saint-Esprit était descendu sur elle et la réconfortèrent en lui tapant dans le dos et en criant « C'est la puissance d'en haut, ma sœur ! Loue le Seigneur !» Fausse conception de l'action du Saint-Esprit dans une vie. Mauvais point de repère. Inutile de pousser des cris. Il m'est arrivé dans certains pays du monde d'être invité dans certaines églises pour des séminaires d'enseignement où tout d'abord le pasteur criait tellement fort que j'étais obligé de me boucher les oreilles. Je ne pouvais pas faire autrement, mes tympans se mettaient à vibrer étrangement. Et puis quand il avait fini, j'avais toujours l'impression qu'il était en colère. C'était l'église à son tour qui, dans les chants et dans les prières, mais hurlait. Croyez-vous que ce soit signe de la présence de Dieu? Notre Dieu n'a pas besoin d'appareil auditif, n'est-ce pas? Il est capable d'entendre les pensées qui circulent simplement déjà dans nos cœurs et il les connaît par avance. J'ai sous les yeux ici un autre texte intéressant. L'auteur écrit ceci. Le diable singe Dieu, et cela me rappelle justement une parole de Martin Luther lui-même qui disait que le diable est le singe de Dieu. Non pas de manière méprisante, nous n'avons pas à injurier la puissance des ténèbres, mais simplement à affirmer et à reconnaître et à dénoncer ces stratégies. Et une des stratégies qui fonctionne le mieux, c'est celle, pardon de le dire ainsi, de ces singeries. Si vous allez dans un zoo, généralement l'endroit qui a le plus de succès, c'est l'endroit où sont les singes. Et ce que l'on aime tout particulièrement, c'est la manière dont les singes singent les hommes. N'est-ce pas? Et l'auteur dit ceci, le diable singe Dieu et agit souvent à l'inverse du Saint-Esprit. Il est notoire que dans les milieux sataniques, les autels sont souvent formés par des personnes, généralement des femmes, couchées sur le dos. Elles montrent ainsi leur nudité devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne devait jamais gravir des marches pour monter à l'autel. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin que ta nudité ne soit pas découverte. Exode 20, 26. L'homme qui, devant Dieu, tombe sur sa face, cache sa nudité. Celui qui tombe sur son dos la découvre. C'est l'esprit de l'adversaire qui encourage les gens à dévoiler leur nudité, Apocalypse 16, 15. Cela n'a jamais été et ne sera jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce que je n'ai pas à avoir honte de mon Dieu. Il ne me demande jamais des choses qui peuvent être inconvenantes. Il est égal dans les ordres qu'il me donne à la beauté de son caractère. Et ceci est très important. Il est dramatique que nous soyons parfois obligés d'être honteux de la manière dont notre Dieu est présenté au monde et parfois même aux reporters qui sont planqués dans certaines salles pour mieux pouvoir discréditer l'Église de Jésus-Christ. Alors ne soyons pas de ceux qui donnent la main à la puissance des ténèbres en présentant une caricature de la beauté du christianisme. Enfin, dernier texte, la différence essentielle qui distingue les manifestations données par le Saint-Esprit des manifestations dues au spiritisme, à la possession démoniaque, c'est que le Saint-Esprit nous laisse libres. En spiritisme, le médium est forcé d'abandonner le contrôle de sa volonté, de sa personnalité, à l'esprit qui le tient et se sert de lui. Il est obligé de faire et de dire des choses qu'il ne se serait jamais permises. Le Saint-Esprit n'agit jamais ainsi avec le chrétien. La volonté et la personnalité comptent parmi les dons les plus précieux que Dieu a fait à l'homme. Je m'arrête ici. Oh, je vais lire jusqu'au bout et je vais revenir. C'est trop important. Dieu ne nous force jamais la main. Le principe de Satan est de nous rendre esclaves, mais Dieu fait de nous des fils. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Non pas dans le sens du libertinage, des excès, d'une grâce qui se transformerait en crasse. Hein, il faut jamais comprendre la grâce et la crasse. Il y a peu de différence apparemment, et pourtant, elle est énorme. Mais je reviens sur cette indication qui est tellement juste. La volonté, la personnalité comptent parmi les dons les plus précieux que Dieu a faits à l'homme. Et je crois nécessaire d'insister sur la volonté, puisque les Écritures sont saturées d'impératifs. Et l'impératif s'adresse à la volonté. Rien que dans les Épîtres de Paul, vous avez entre 900 et 1000 verbes conjugués à l'impératif. C'est une densité extraordinaire. Ils sont partout dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons méfier quant à notre langage pour évoquer l'importance de la croix dans nos vies. Pendant un certain temps, j'ai été séduit en quelque sorte par la lecture de livres excellents par ailleurs, mais dans lesquels figurait à maintes reprises cette expression « le brisement de la volonté ». Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était déjà une petite glissade, mais très problématique dans ses effets, dans l'usage des mots, comme si finalement notre volonté était semblable à l'échine d'un lapin, vous savez, hein, ce lapin que le braconnier vient de récupérer dans son lacet, et qu'est-ce qu'il fait? Pink! Pour pouvoir le mettre dans sa carnassière, dans sa gypsière. Dieu ne brise pas notre volonté. Et les croyants qui ont cultivé le brisement de la volonté, ont eu d'énormes problèmes de passivité. Ils ont oublié que ce qu'on appelle le quiétisme spirituel, qui est la vie dans le repos de Dieu et dans la grâce de Dieu, doit toujours être associé au piétisme spirituel, qui est l'engagement de notre volonté. Et l'équilibre de la vie chrétienne, c'est un mariage entre quiétisme, la quiétude en Christ, et le piétisme, une piété active, à la fois vis-à-vis du Seigneur et dans nos relations les uns avec les autres et avec la société. Ce n'est pas notre volonté qui doit être brisée. C'est notre volonté propre. Notre volonté doit être purifiée. Elle doit être purifiée de son caractère, qui est parfois d'opiniâtreté, toutes sortes de défauts, mais en elle-même. Notre volonté, passée par les laminoirs de l'esprit, purifiée et d'une utilité extrêmement importante, c'est un des cadeaux fondamentaux que Dieu ait fait à l'homme. Ben sinon, on en arrive à ces situations que l'on rencontre dans, hélas, certaines familles, lorsque un enfant a affaire à un père ou à une mère très autoritaire, en fonction de son tempérament, vous le savez, soit il se révolte, il claque la porte et il va faire toutes ses affaires ailleurs avec les dégâts qui s'en suivent, soit il devient une véritable lavette, il ne fait plus rien. Mais ça, ce sont des personnes qu'ensuite vous devez porter pendant des années parce qu'elles sont devenues complètement inertes, écrasées qu'ont été en permanence leur volonté. Et quand ces personnes se convertissent à Jésus-Christ, quand elles sont vraiment visitées dans leur être tout entier par Jésus-Christ, souvent, pendant un certain nombre d'années, tout un travail spirituel doit se faire pour que leur volonté recommence à fonctionner convenablement. Et c'est pas facile. Alors, faisons attention à ces petites dérives, parfois, dans les ouvrages apparemment les plus remarquables, les plus spirituels, il y a eu des modes quant à cette question du brisement de la volonté, comme il y a eu d'autres modes, et il y aura toujours des modes, avec des mots qui font tilt dans notre vie, quand nous voulons être centrés sur la croix. Nous voulons maintenant utiliser le petit quart d'heure qui nous reste à évoquer le premier élément de cet impératif, soyez. Nous avons vu l'esprit, nous avons longuement évoqué le fait de la plénitude, d'être rempli, et maintenant nous arrivons donc à ce qui va nous occuper, et maintenant encore pour ce quart d'heure et demain matin, soyez. Soyez rempli de l'esprit, ne soyez pas. Ne soyez pas, mais soyez. Ces contrastes tellement nécessaires pour que le côté positif ait un relief particulier dans son opposition, dans son contraste avec le côté négatif. Soyez. Nous venons de le dire. L'enchaînement va de lui-même. Nous venons de parler d'impératifs très fréquents dans les Écritures, de l'importance de la volonté. Voilà qui s'adresse à notre volonté. Soyez un impératif, un ordre catégorique, un commandement, un devoir. Être rempli du Saint-Esprit nous est ordonné. Ce n'est donc pas un luxe, ce n'est pas une option, ce n'est pas une dimension de vie accessoire, ce n'est pas une sorte de plus, de petite et belle cerise sur le gâteau, ce n'est pas non plus une suggestion timide, une vague recommandation, un conseil poli, non, mes bien-aimés, c'est une obligation. C'est tout simplement la volonté de Dieu pour moi. Être rempli du Saint-Esprit est donc le statut d'une vie chrétienne normale, celle que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Tout autre statut, mes bien-aimés, que celui-là, est anormal, est dangereux, est préjudiciable. N'hésitons pas à le dire. Tout autre statut que celui-là est anormal, dangereux, préjudiciable. Il est intéressant de constater que lorsque Ananias est allé rencontrer Saul de Tarse dans la rue droite à Damas, et j'ai longuement visité en large et en travers et en long, parce qu'il est très long, 2 kilomètres, dans ce vieux Damas, et dans cette vieille grande rue, toujours la rue principale du vieux Damas aujourd'hui, Ananias rencontre Saul de Tarse à Damas, donc pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tout de suite, première chose. Je suis venu pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu recouvres la vue, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est absolument capital. Un impératif, avons-nous dit. Nous y ajoutons maintenant un impératif pluriel. Pluriel. Tout d'abord parce que l'Épître aux Éphésiens est une circulaire. Nous venons d'envoyer une circulaire à bon nombre d'amis qui intercèdent pour nous, qui nous accompagnent dans notre service. Eh bien, c'était une des circulaires de l'apôtre Paul qui n'était pas seulement, uniquement adressée aux Éphésiens. Éphèse était stratégique, c'était, disons, une petite capitale, mais de toute la Turquie actuelle, c'était un carrefour entre l'Est et l'Ouest, un lieu de passage, c'était un carrefour aussi routier très important entre le Nord et le Sud, lieu stratégique, ville extrêmement importante, donc immédiatement et par conséquent un lieu fondamental pour que l'Église de Jésus-Christ y existe et y témoigne. Et que de là, toute la Turquie soit inondée, puisqu'à la fin du 1er siècle, on pense qu'il y avait à peu près une centaine de communautés qui adoraient le Seigneur dans l'ensemble de ce que nous appelons, nous, l'actuelle Turquie. Cette circulaire n'était pas uniquement adressée à l'église d'Éphèse, mais à partir de l'église d'Éphèse, à toutes les églises qui étaient en train de se développer dans cette région. Et nous en avons des preuves. Nous savons, il existe une épître qui a le texte de l'épître aux Éphésiens, mais il y a un blanc à l'endroit où doit figurer le nom des destinataires. Épître O, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier texte, l'original, a bien été adressé à l'église d'Éphèse, et puis un copiste s'est mis au travail pour faire des photocopies, mais à la main. Et puis, il n'a pas forcément rempli chaque fois aussitôt le vide. Il y en avait une qui était pour l'église de Laodicée, l'autre qui était pour l'église de Colosse, l'autre qui était, etc. Donc il a laissé un vide, et ce vide était comblé au fur et à mesure qu'on envoyait un messager qui partait ventre à terre dans la direction de l'église qui allait recevoir cette circulaire. L'original est resté à Éphèse, et les autres circulaires ont été distribuées dans toute la région. Cela veut donc dire que cet impératif s'adresse à toute la communauté chrétienne, dans tous les lieux et dans toutes les époques, et concerne tous les croyants sans exception. Nous avons 2 lettres capitales dans le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est essentiel. Mais Dieu a diriger son serviteur Paul et l'a inspiré pour le contenu de 2 lettres particulièrement stratégiques parce qu'elles étaient adressées à l'église de Jésus-Christ dans 2 capitales importantes de l'Empire romain, Rome et Éphèse. Et c'est ce qui fait que les messages de ces 2 épîtres sont à décortiquer d'une manière toute particulière parce qu'ils donnent une substance, une substantifique moelle concernant le message de Dieu à l'Église de Jésus-Christ. Donc, si cet impératif est pluriel, cela veut dire que cet ordre n'est pas un privilège réservé à une minorité, à une élite, aux plus jeunes, aux missionnaires, aux serviteurs de Dieu. Toute l'Église est concernée. Oh, que j'aime dire cela. Vous savez, quand on traite de certains thèmes, vous avez toujours quelqu'un dans l'Église qui dit « Moi, c'est pas pour moi parce que je suis vieux, je suis pas jeune. » Ou « Moi, c'est pas pour moi parce que je suis jeune, je suis pas vieux. » « Moi, c'est pas pour moi parce que je suis pas célibataire, je suis marié. » « Moi, c'est pas pour moi parce que je suis marié, je suis pas célibataire. » On s'arrange toujours pour passer entre les gouttes. Hein? Mais il y a des thèmes. Il y a des thèmes incontournables pour tous. Pour chacun d'entre nous qui sommes ici. Bien entendu. Pour moi le premier. Impératif, impératif pluriel, impératif passif. Ah, passif, oui. Passif, parce qu'il n'est pas écrit « remplissez-vous ». Mais soyez remplis. C'est-à-dire laissez l'Esprit vous remplir. Ou laissez le Seigneur vous remplir de son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que nous ne pouvons pas manipuler le Saint-Esprit. Et en quelque sorte nous remplir nous-mêmes. Nous ne pouvons donc pas nous glorifier d'être remplis comme s'il s'agissait d'un tour de force exceptionnel. C'est une grâce de Dieu. C'est un merveilleux cadeau que Dieu nous fait en venant, en étant venu demeurer en nous par le Saint-Esprit. Mais attention, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit dans une passivité totale. Ce n'est pas parce que c'est un impératif passif que nous sommes totalement passifs. De la même manière que si nous sommes intoxiqués par le vin, nous ne sommes pas intoxiqués par le vin passivement. Encore faut-il que nous mettions nos lèvres au goulot de la bouteille, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous devons remplir les conditions qui permettent au Saint-Esprit de nous remplir. Ça, c'est notre responsabilité. Et puisque mon épouse et moi avons servi le Seigneur pendant une dizaine d'années, mon épouse 12, parce que c'est là-bas que la grande rencontre qui a tout bouleversé a eu lieu, et que nous sommes mariés, fiancés d'abord, j'ai demandé, tenez-vous bien la main de mon épouse dans la chapelle même, où un lundi, où en réalité, quelques mois plus tard, j'allais être responsable. Et elle m'a donné sa réponse parce qu'elle était prudente et elle avait bien raison. Elle était missionnaire en Bretagne et elle a donné sa réponse dans une autre église, à une autre réunion le samedi suivant, à 45 kilomètres de là. Et le papier était tellement beau, l'enveloppe était tellement belle, que je me suis dit, ouh, la réponse doit certainement être positive. Et il est donc arrivé ce qui devait arriver, et nous en sommes follement heureux. En 56 avant Jésus-Christ, les Romains se sont attaqués à l'Armorique, pas à l'Amérique, mais à l'Armorique. Hein, vous connaissez ce nom pour parler de ce qui est devenu la Bretagne ensuite, c'est le massif armoricain est toujours là, et ils ont fait cela sous le commandement de Jules César. Et à cette époque, il y avait en Armorique une tribu qu'on appelait les Vénètes. Et les Vénètes étaient les ancêtres des Bretons actuels. Et ils avaient une particularité, une excellence, ces Vénètes, c'est qu'ils étaient à la tête d'une magnifique flotte de bateaux, des bateaux de chaîne. Vous voyez que déjà à l'époque, la célébrité bretonne tournait autour des marins. Hein, les marins bretons, encore aujourd'hui, sont célèbres dans le monde entier. Et donc, ils avaient une de ces flottes de bateaux de chêne aux voiles de cuir, des véritables géants devant lesquels les embarcations romaines apparaissaient comme des toutes petites barques. Les Romains, bien sûr, tremblaient avec ce déséquilibre au niveau logistique, comme on dit. Mais les Bénètes étaient tellement conscients de leur supériorité qu'ils avaient négligé même de prendre des armes à bord. Ils pensaient que, avec le vent et leur bateau, ils allaient semer ces Romains et le tour serait vite joué. Les manœuvres commencent, la bataille navale, et pendant un premier temps, les Bénètes ont le dessus, effectivement, avec leurs embarcations très spéciales. Mais ne voilà-t-il pas que le vent tombe. Et la situation se retourne totalement, puisque les Romains, eux, avaient prévu dans leur attirail des perches surmontées de fautes paysans pour pouvoir couper les vergues et monter à l'assaut de ces bateaux en massacrant impitoyablement les Vénètes. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ainsi que l'Armorique fut prise. Le vent de l'esprit s'associe toujours à ces armes dont nous allons parler et qui doivent être mises en œuvre par le croyant. Pas d'armes, pas de vent. Première condition à remplir pour être rempli du Saint-Esprit. Condition de purification. Condition de purification. Tout dépend de la conduite du croyant. Et à cet égard, j'ai sous les yeux cette petite anecdote qui est tout à fait authentique, qui se passe en Belgique, où une fermière qui habitait un hameau éloigné a fini par se plaindre à l'administration belge de ne pas recevoir l'eau courante avec suffisamment de pression. Nous avons d'ailleurs exactement un problème similaire, si j'y pense à l'instant, puisque lundi matin à 7h, notre plombier arrive parce que notre eau chaude Diminue, c'est un détartrage nécessaire, il y a quelque part des tuyaux qui sont trop fins maintenant à l'intérieur. Et donc, elle explique sa situation dans son courrier et elle reçoit cette réponse laconique « Cela ira mieux quand vous aurez une meilleure conduite ». Alors c'était quand même un peu problématique, je ne sais pas si c'est du français belge. Mais en français, c'est ambigu. Il vaudrait mieux dire une meilleure canalisation, n'est-ce pas? Une meilleure conduite. Rétablis ta conduite. Remets ta canalisation en état. Et je pense ici dans la mythologie grecque à Hercule, ce fils de Zeus, ce célèbre héros de cette mythologie, à qui l'on attribua la tâche impossible de nettoyer les gigantesques écuries d'Augias, ces fameux 12 travaux d'Hercule. Et il y avait dans ces gigantesques écuries quelque 3000 bœufs. Et ces écuries n'avaient pas été nettoyées depuis 30 temps. Vous imaginez les montagnes de saleté. L'endroit était donc finalement envahi par une véritable montagne de fumier. Et Hercule avait suffisamment de jugeote et peut-être d'humilité pour savoir que malgré toute sa force, il ne pourrait jamais enlever ces tonnes et ces tonnes de saleté. Qu'a-t-il fait ? Il est allé dans les montagnes, il a simplement trouvé un torrent impétueux dont il a détourné le cours pour faire couler les eaux claires au travers de ces immenses écuries et en peu de temps, ce fort courant balaya tout le crottin. Les écuries étaient enfin propres grâce à l'eau scintillante descendue des hauteurs. Il faut un nettoyage. C'est par là que ça doit commencer. Je me souviens d'une série d'études à Isenfluh. Certains d'entre vous sont allés là dans, au cœur des Alpes bernoises, en face de sommets splendides, et nous donnons un cours chaque été pour la 11e année cette année. Et je venais d'évoquer la nécessité de nettoyer nos canalisations. Et il y avait là, oh, un brave ami, oh, qui avait, je le reconnais surtout par sa merveilleuse barbe en train de blanchir. Il était là avec sa chère épouse, il est d'ailleurs resté en relation avec nous depuis, et il est venu me voir après, il m'a dit, vous voyez, cher frère, j'ai été sensible à ce que vous expliquiez dans votre étude, car dans cette étude, j'avais pris notamment ce passage du Cantique des Cantiques au chapitre 2 et au verset 15, dans lequel vous avez cette phrase « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Et il y a là tout un message d'un symbolisme tout à fait évident. Les petits renards ici font allusion à ces petits problèmes qui entravent une bonne communication, notamment dans les relations de couple. Alors il m'a dit ceci et c'était tellement intéressant, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas architecte et je vais certainement utiliser un mauvais langage. Alors est-ce que vous pourriez me mettre sur papier exactement l'explication que vous venez de me donner pour que je ne me trompe pas. Alors je vous livre l'explication qu'il donne. Les canalisations d'eau usée ou d'eau de pluie sont souvent enterrées. Elles sont constituées d'éléments qui sont assemblés par des joints. Les joints sont des points fragiles qui peuvent s'abîmer avec le temps. La canalisation perd alors de son étanchéité. Les plantes, les arbres en particulier, trouvent dans le sous-sol un point d'eau vers lequel ils vont tendre leurs racines. Ces racines peuvent même traverser le joint de la canalisation et y pénétrer. D'abord une racine, puis des radicelles qui vont puiser l'eau dans la canalisation. Et comme l'arbre est gourmand, autant de l'eau que des matières organiques qu'il peut trouver, il va pousser 2, 3, 4 racines, avec chacune leur radicelle, à tel point que la canalisation, avec le temps, va être envahie par une espèce de pelote qui s'étire en longueur jusqu'à remplir cette conduite. Alors, l'eau ne passe plus. La canalisation est bouchée. Cette pelote, qu'on peut retirer avec des appareils spéciaux, ressemble étrangement à une queue de renard et en porte le nom. Ça s'appelle une queue de renard. Alors, mes bien-aimés, il y a peut-être des queues de renard dans nos canalisations, dans notre conduite. Dieu nous demande d'aller à la croix afin que notre relation avec lui et lui avec moi soit rétabli. Et en fait, c'est vrai, dans Éphésiens 5, 18, tout s'inscrit dans ce contexte-là. Regardez déjà au chapitre 4 et au verset 17, où il nous est dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous ne devons plus marcher comme des païens. Ensuite, verset 25 et suivant, regardez le verset 25. À cause de notre nouveau statut, qui est exprimé clairement dans les versets précédents, de notre nouvelle identité, du dépouillement de notre vieil homme, du revêtement de notre nouvelle nature. C'est pourquoi, verset 25, « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Renoncez. Ça m'apparaît faible. C'est juste renoncer. Mais le terme est beaucoup plus vigoureux que le mot renoncer. Imaginez des faux témoins suivis, déjà haineux eux-mêmes, et suivis d'une bande de gens, dévorés d'une haine, à l'endroit d'un prédicateur de l'Église primitive rempli de la sagesse d'en haut et qui vient de leur présenter un message qui prouve son imprégnation juste de l'Ancien Testament. Il ne voit qu'une chose, une solution, c'est qu'ils disparaissent de la terre. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens. On l'a accusé de tous les crimes et délits, en particulier on a totalement déformé des propos de Jésus, qui d'ailleurs ont déjà été déformés plusieurs fois dans les évangiles. Et maintenant, ils sont en train de se déshabiller pour être le plus à l'aise et pour pouvoir prendre les plus gros cailloux, parce qu'ils vont le tuer, cet Étienne, premier martyr de l'Église. Et le texte grec utilise le même mot que le verset 25, « renoncer », pour évoquer le fait qu'ils se sont déshabillés et qu'ils ont mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui a dû rudement être travaillé par le Saint-Esprit dans le spectacle qu'il avait à tous égards devant lui. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé. Alors, je dis souvent, vous croyez simplement que ces hommes qui étaient remplis d'une haine, d'une folie meurtrière, vous croyez qu'ils ont pris tout le temps, hein? Oh, je vais prendre mon temps. Est-ce que tu pourrais pas me donner de quoi Non, écoutez, quand on est rempli de haine, hein, je suis sûr que quelques boutons ont dû sauter, il y a dû y avoir quelques déchirures quelque part. Ils se sont débarrassés de leurs vêtements. Je suis heureux de voir qu'une des toutes nouvelles versions qui cherchent cette fidélité au texte, justement, utilise le terme « débarrasser ».« Débarrassez-vous du mensonge !» Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il s'agit de traiter le péché comme il convient de le traiter. Quelqu'un dit qu'il n'est pas un chou à la crème, mais un serpent sonnette. La Bible est beaucoup plus simple dans ces domaines que nous, avec toutes nos manières de faire du twist et de nous tortiller pour essayer de nous en sortir. Débarrassez-vous. Et s'il est dit que nous devons nous débarrasser, c'est parce que Dieu nous en donne les moyens, dans la mesure où vraiment nous le voulons, et où nous commençons par plaider coupable, par appeler le péché péché, le mensonge mensonge. Vous savez que... on n'appelle pas le mensonge mensonge aujourd'hui, c'est toujours des contre-vérités, des choses comme ça, c'est tellement élégant aujourd'hui. Non, le mensonge, c'est le mensonge. Débarrassez-vous du mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, non, sur votre irritation. Parce que c'est la racine est la même pour les deux mots, mais le deuxième mot est un peu différent du premier. Et pourquoi ? Parce que une colère, quand vous ne la cultivez pas, et quand vous la vivez consciemment dans la maîtrise de soi, ce qui est difficile... n'est pas impossible. Tant que vous ne la cultivez pas, elle ne se transforme pas en irritation. L'irritation, c'est la colère cultivée qui commence à tout dérégler dans votre comportement. Alors, voyez ce qui est dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mes amis, il faut faire attention, si j'étais au Groenland et que je dis ça pendant les mois où le soleil ne quitte jamais l'horizon, ça réjouirait certainement beaucoup mes auditeurs. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas ce que nous croyons que Jésus a voulu dire. Bien entendu que ça veut dire tout d'abord qu'il faut régler les choses le plus vite possible. C'est-à-dire avant que la colère ne se soit transformée en irritation. Mais ce qui est nécessaire, c'est que nous examinions notre colère, justement, pour que nous soyons prêts à dire « Seigneur, pardon ». Parce qu'il y a des impuretés dans ma colère. Et là, c'est déjà un lait qui a commencé à tourner. Ça sent l'aigreur, etc., n'est-ce pas ? C'est ça, d'analyser pour éviter que ça dure et pour régler la chose dans la présence de Dieu. Oh, vous pourrez continuer vous-même à aborder la suite du texte, à éplucher les versets qui suivent. Il y a là vraiment la possibilité de faire le point dans sa vie en lisant verset après verset, en disant « Écoute Seigneur, voilà, là je me sens concerné et j'ai besoin de ta purification dans le domaine du langage, dans quantité d'autres domaines, dans le domaine du pardon réciproque. » Il y a toute une escalade au verset 31, « Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, c'est une ascension. Si vous examinez chaque terme, vous verrez que ce n'est pas construit au hasard. Chaque attitude amène une escalade dans le domaine d'une attitude mauvaise et le rappel de cette possibilité d'aller toujours à Dieu puisqu'il nous a pardonné en Christ et que le sang de Jésus n'a rien perdu de sa puissance. Nous allons nous arrêter ici, et donc demain matin nous continuerons ces conditions permettant au Saint-Esprit de nous remplir, et puis nous verrons encore que cet impératif qui est un pluriel, a aussi une autre caractéristique que nous serons heureux de développer parce qu'elle est aussi importante pour notre vie à chacun. Nous voulons simplement prier.